Donc, les hymnes christologiques sont repérables dans les épîtres de saint Paul parce qu'elles ont un autre style que le genre un peu spéculatif de Paul ordinairement. Et elles sont de style même poétique, on peut le dire, hein, sauf que ça répond à une poésie hébraïque. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ça. On a repris ces hymnes parce que, comme ce sont des poèmes, elles sont aptes au chant et elles apparaissent aussi dans la liturgie en tant que seconde lecture le dimanche. Vous allez voir, hein, certainement, vous allez reconnaître quand j'en ferai la lecture. J'ai déposé sur le site une feuille où je propose les traductions que je vais utiliser, mais vous connaissez ces textes. Et ces hymnes sont donc chantés dans le bréviaire, hein, dans l'office de l'aude et l'office de vêpres. Et si elles sont ainsi chantées, c'est parce qu'elles ont, du point de vue littéraire, quelque chose de poétique, de cadencé, même dans les formulations, ou soit dans la technique poétique et liturgique de l'époque. Tout le monde connaît, par exemple, l'hymne à la charité, la première lettre aux Corinthiens au chapitre 13. Vous savez, c'est ce fameux texte qu'on entend beaucoup dans les mariages. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre, s'il me manque l'amour, je ne suis que cymbale retentissante. J'aurais beau, etc., etc., donner ma fortune aux affamés, s'il me manque l'amour. Et on repère le poème à cause des répétitions. Vous voyez, il y a comme trois fois trois cadences. Et puis après, dans la deuxième partie du poème, vous avez 12 répétitions. 12, vous voyez, c'est quand même incroyable, quoi. Vous savez, l'amour prend patience, l'amour endure tout, etc., etc. Il y en a 12. 7 en négatif, ne se met pas en colère, etc. Et 5 en positif. Bon, tout ça, vous voyez, c'est extraordinairement ordonné. Et en fait, ça répond aux règles de la poésie hébraïque. Paul emprunte, probablement, il y a des micros qui sont encore éveillés, et donc non seulement je vous entends, mais on les enregistre aussi. Alors, comment je passe ma photo? C'est bizarre, aujourd'hui, j'arrive pas à passer la suivante. Alors, voilà. Paul emprunte probablement des hymnes écrits par d'autres et en usage dans le culte. Alors ça, les micros, s'il vous plaît. Voilà, c'est. Alors ça, probablement, il y a des hypothèses, hein, des exégètes, c'est-à-dire soit il prend une hymne et il la transforme pour l'adapter au propos qu'il veut tenir, soit il insère carrément une hymne bien connue de tous parce qu'elle vient éclairer son propos. En tout cas, il n'écrit pas lui-même de poésie. C'est pas du tout son genre. Vous le connaissez, saint Paul, hein. Disons, pour faire au plus vite, c'est l'hypothèse que je retiens, qu'il emprunte des hymnes déjà en usage et pratiqués comme chants liturgiques. Dans les années 40 à 60, il y avait en effet déjà un répertoire liturgique très proche dans sa poésie des chants et des pratiques de la synagogue. Je dis un mot tout d'abord du contexte de ces lettres. Comme vous le savez, Paul a beaucoup voyagé dans le bassin méditerranéen. Il y a trois grands voyages. Premier voyage pour fonder d'abord un certain nombre d'églises et ensuite pour visiter les petits noyaux d'églises qu'il a institués, qu'il a fondés. Vous savez, il reste très peu. Il institue un épiscope, un chef de communauté et un petit groupe de fervents et il s'en va. Il va faire une autre mission. Et souvent, ces voyages suscitaient des réactions vives des Juifs, ce qui provoquait un désordre notoire. C'est pourquoi saint Paul s'est retrouvé trois fois en prison, à Césarée en 59. Bon, ça n'a pas été très, très long, mais enfin, quand même, il a fait un petit séjour. À Éphèse, où il a passé quelques mois en prison, et à Rome, enfin, ben vous savez que c'est là qu'il finira sa vie. Il a passé 2 ans probablement en prison à Rome. Et c'est de ces prisons qu'il écrit ses lettres. Nos trois lettres sont toutes écrites en prison, Colossiens et Éphésiens depuis Rome, vers 60-61, et Philippiens un peu avant, vers 53-54. Et à ce moment-là, Paul est prisonnier à Éphèse. On va donc voir ces épîtres les unes après les autres. On va commencer par Philippiens. Donc, je vous le dis, on fait un petit peu d'exégèse. Alors que pour le baptême du Christ et la tentation, je ferai plutôt des commentaires. Vous allez voir la différence entre exégète et commentaire, enfin, vous savez probablement. Donc, l'épître aux Philippiens. Philippe est la première communauté à être formée à partir d'Antioche. Vous savez qu'Antioche, aujourd'hui Antioche de Syrie, a été le foyer de la première église, et notamment de la première église avec des missions. Et c'est comme ça qu'on a envoyé la première mission avec Barnabé et Paul. Et la seconde mission est envoyée avec Paul et Barnabé, dans l'autre sens. Et Paul prend beaucoup d'importance. Et la troisième mission, c'est celle qui va le conduire à Rome. Et cette communauté de Philippe, Paul y est très attaché parce qu'il la connaît bien et il la fonde autour de quelques femmes, dont Lydie. Il y est attaché tellement que c'est de cette seule communauté qu'il acceptera une aide financière. Vous savez que saint Paul revendiquait de ne pas avoir besoin de subsides pour son enseignement. Il travaillait. Alors, ce n'est pas son métier de base, mais comme métier, il avait trouvé d'être… il tissait des toiles. Enfin, il aménageait des toiles, soit pour en faire des voiles, soit pour en faire des tentes. Et donc, il avait un petit gagne-pain, quoi. Son vrai métier, en fait, c'est qu'il était rabbin. Enfin, il avait le niveau d'un rabbin. Il était membre du Sanhédrin et disciple de Gamaliel. Pharisien, fils de pharisien, tout ça, il le dit lui-même. Bref, donc, très attaché à la communauté de Philippe. Il se retrouve en prison, il leur écrit. Et c'est donc après la lettre aux Thessaloniciens, un des premiers textes du Nouveau Testament. Les évangiles viennent après. Voilà la carte qui vous situe Philippe. Vous voyez, au bout de la flèche rouge, et je l'ai fait partir d'Antioche parce que c'est de là que va partir la mission. Voici ce qui reste aujourd'hui de la ville de Philippe. C'est un beau chantier d'archéologie qu'on peut visiter. Tout au fond, là-bas, vous voyez une basilique chrétienne. Voilà. Et ce qui est devant, c'est l'agora. Alors, voilà le texte. Vous l'avez également sur vos feuilles. Bon, je le lis, et puis après, je l'équiperai. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et sous terre, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Dans cette mise en page que vous avez sur vos feuilles et sur l'écran, nous voyons déjà très bien apparaître des structures. Alors, la structure que vous pouvez tout de suite repérer, c'est gloire première, abaissement et gloire finale. Vous voyez, le premier paragraphe, Jésus de condition de Dieu, et le dernier paragraphe, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et entre les deux, vous avez l'incarnation. Le premier groupe exprime clairement la condition divine du Christ. Ayant la forme de Dieu, il ne s'accrocha pas. Alors, le mot est impressionnant, Il ne retint pas. Voilà, il y a marqué, il ne retient pas, il ne retint pas jalousement. C'est harpomon, c'est-à-dire de harpon. Ça veut dire vraiment s'accrocher au rang qu'il égalait à Dieu. se rend cette gloire, cette égalité avec Dieu. La théologie n'a jamais cessé de le répéter. Hein. Vous vous souvenez, il est vrai Dieu. Bon. Et c'est celle-là qu'il trouvera lors de la résurrection, amplifiée de toute la louange cosmique. Et c'est la dernière strophe. Et avec la louange cosmique, afin que tout genou fléchisse au ciel, sur terre, sous terre. Il est vraiment question du cosmos. Il n'est pas question de martiens ou d'hommes qui vivraient sous la terre. Ce sont les éléments créés. Cette idée que le cosmos lui-même participe à cette louange, c'est le titre qu'on a donné au Christ, Pantocrator. Le nom du Christ, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. C'est Jésus Sauveur, c'est Jésus Seigneur, c'est Pantocrator. Et il a en quelque sorte christifié toute chose, le cosmos et nous, bien sûr, l'humanité. Il a pénétré toute chose et donc il reconduit toute chose vers la louange. Pourquoi je dis il reconduit ? Eh bien parce que la nature de la création, c'est d'être comme le miroir, l'icône, le reflet de la perfection de Dieu. Et donc, toute la création est faite pour louer Dieu, sauf qu'elle a été dégradée. Et donc, il va reconduire toute chose vers la louange. Et c'est l'homme qui va être le ministre de ce relèvement de la création, l'homme à qui est confiée la création. Entre ces deux gloires, gloire, je rappelle, hein, veut dire plénitude, vérité, ce n'est pas la gloriole humaine, hein, la gloriole des soldats vainqueurs ou je ne sais quoi, hein, ou de la toute-puissance clinquante, rien à voir. Hein. Gloire, ça veut dire plénitude, vérité. Eh bien, entre les deux, donc la gloire de la condition de Dieu, le rang qu'il égalait à Dieu, puis le nom qui est donné, Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, entre les deux, il y a l'incarnation. C'est une hymne très centrée sur la venue au monde et sur la solidarité avec le genre humain jusqu'à la mort. Autant le mot harpomon, s'accrocher, retenir jalousement, nous dit que le Fils ne s'accrochait pas à Dieu vers de station. Autant ici, tous les verbes, dans la partie encadrée en vert, tous les verbes disent le déplacement, le mouvement, le devenir. Il prend la condition, il devient homme, avec évidemment deux verbes en pointe. Il s'est anéanti et il s'est abaissé. Alors là, attention au vocabulaire. Alors plusieurs fois, je vais le signaler au cours de cette soirée. Vous savez, je l'avais déjà signalé maintes et maintes fois à propos du sang versé, du mot rédemption. C'est vraiment un vocabulaire qu'il faut comprendre. Or, ici, on a traduit au mot à mot, et ça donne des verbes qui, en français, sont des pièges. Pourquoi ? Parce que anéantir, ça veut dire, en français, ça veut dire aller vers le néant. Or, en grec, c'est ekénosen, d'où vient l'expression kénose, qui ne veut pas d'abord dire le néant, il n'y a aucune idée de néant, mais une idée de déversement, de se vider, comme vous savez, les libations. Il se déverse, on pourrait dire, il s'offre. Voilà. Donc, vous voyez, il s'est anéanti, attention. Évidemment, Dieu, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que quand Dieu se fait Jésus, il n'a pas perdu sa divinité. Et il ne s'est pas anéanti. Être homme, ce n'est pas être anéanti. Ah, c'est quelque chose de très important. Et donc, c'est vrai que les traductions sont toujours un petit peu risquées. Et l'autre verbe, il s'est abaissé, devenant obéissant. Alors, attention là aussi. Est-ce que Jésus a besoin, vous savez, comme un prisonnier dans les camps de concentration, il devient obéissant, qu'il faut qu'il penche la tête. Et on l'abaisse pour qu'il devienne obéissant. Mais voyez comme c'est dans nos têtes et comme c'est insupportable et comme c'est pervers. Voilà, donc, il s'est abaissé devenant obéissant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, le devenir obéissant, c'est le contraire d'arpomone, qui voulait dire se saisir, retenir, s'accrocher. Là, ça veut dire être cohérent jusqu'au bout. Voilà. Il s'est abaissé. Alors, en effet, le verbe est bien celui-là. Hein. C'est-à-dire, il est allé plus bas pour rester cohérent jusqu'au bout. Voilà ce que ça veut dire, devenir obéissant. Sinon, vous voyez les problèmes. Hein. Donc, c'est la cohérence de toute l'incarnation. Voilà les verbes que je rajoute. Et voilà l'image qui illustre ça. Voilà ce que ça veut dire quand Jésus s'abaisse. Ça ne veut pas du tout dire qu'il, encore une fois, hein, qu'il subit par rapport au Père quelque humiliation que ce soit, qu'il devient obéissant par les souffrances de sa mort, etc. Enfin, vous connaissez tout ce lexique. Ça veut dire qu'il reste cohérent dans sa mission, qui consiste en effet à s'incarner, c'est-à-dire à quitter sa condition d'auprès de Dieu pour venir auprès des hommes. Et pourquoi vient-il auprès des hommes? Pour conduire les hommes auprès de Dieu. Vous voyez, voilà, ça, c'est vraiment des trucs qu'il faut apprendre par cœur. Voilà. Alors, je laisse quand même apparaître d'autres formes de structures pour éclairer ces hymnes. Voilà, je vous aide un peu. Excusez-moi d'insister, non seulement j'entends un bruit de fond, mais j'entends quelqu'un qui est en train de lire ses mails. J'entends le clic des mails. Donc voilà, n'oubliez pas d'éteindre vos micros, parce que tout ça est enregistré, c'est un peu gênant. Voilà, n'oubliez pas, s'il vous plaît. Donc voilà, je vous ai encadré avec ces exemples rouges et bien apparents, cette espèce d'encadrement général qui forme le cadre de vie de cette structure poétique, la condition divine de Dieu. Donc vous voyez, c'est le « c'est anéantir » ne peut pas être compris dans le sens pervers que je signale. Ben ça, c'est un premier repère. Au centre, il y a un deuxième repère pour bien comprendre qu'il s'agit de rythme poétique. Vous savez, vous avez déjà certainement vu à la télévision, peut-être que vous avez la chance d'aller sur place, ou même dans une synagogue, on voit souvent les Juifs, quand ils lisent leurs prières, se balancer d'avant en arrière, vous savez, selon un rythme assez rapide. Eh bien, c'est parce que la poésie hébraïque, les prières hébraïques sont rythmées comme ça. Et donc, c'est très facile de repérer le rythme. Là, je vous en ai mis un. Hein. Voyez, il s'est anéanti, 1, 2, 3, 4. Il s'est abaissé, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, c'est un rythme presque de valse. Voilà, et donc, pourquoi on fait de la poésie comme ça? Parce que c'est une civilisation orale. Et donc, il va falloir, on peut pratiquement mémoriser ça comme des enfants mémorisent une comptine. Donc voilà, ça c'est la partie centrale. On avance avec la dernière partie, la strophe du bas, et en emboîtement, et animée, elle aussi, du rythme de 3. Alors, on va les repérer. Il l'a doté du nom, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'on nom de Jésus. Donc, vous voyez, premier de la triade, avec le triple nom qui est évoqué. Tous genoux fléchissent, au ciel, sur terre, sous terre, et toute langue proclame. Et troisième triade, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi je dis troisième série de triades? Parce qu'il y a des cadences. Jésus-Christ est Seigneur. Il y a trois mots. Gloire, Dieu, Père. Bon, voilà. Alors ça, voilà, ça c'est de la poésie. C'est de la poésie hébraïque. Bon, voilà. C'est une manière, vous voyez, de ces structures, hein, de bien rentrer dans l'intelligence du texte que pourtant vous avez lu, mais que probablement, certainement jamais, a été commenté en homélie. On va passer aux deux autres. On va passer à Colossiens. Colossiens, chapitre 1. Colosse, la ville de Colosse, c'est une ville que Paul n'a pas fondée, une église que Paul n'a pas fondée, ni même visitée. C'est Épaphras, un de ses compagnons, qui en est l'évangélisateur. L'hymne est encore un texte que Paul emprunte. Le texte n'est pas de lui, il l'emprunte. Peut-être ici le réécrit-il quelque peu. En tout cas, c'est toujours poétique, hymnique, disons, c'est-à-dire bien construit, rythmé, comme je viens de vous le montrer sur la première. Alors, voici le texte. Voici d'abord la carte, pardon. Voilà où est Colosse, vous voyez, au bout de la flèche jaune. Cette fois-ci, on est encore en Asie. Voilà, donc à Philippe, on était passé en Occident. Donc là, on est au sud de l'Anatolie, à côté du lac de Béchéir aujourd'hui. Voilà, c'est, vous repérez où c'est. Voici le texte. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église, c'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Voilà, donc il est facile de distinguer sans erreur deux parties. La première, c'est un développement du logos créateur. On a déjà vu ça, hein, avec évidemment le prologue de Jean. Il est avant toute chose, tout subsiste en lui. Il est le premier-né avant toutes les créatures. Tout fut créé en lui, etc. Vous avez repéré tout ça. Le verbe même de créer revient deux fois. Bon, vous avez repéré tout ça. C'est, vous voyez, au bout d'un moment, quand on comprend ce qu'est la poésie hébraïque, on fait attention aux répétitions et les choses se repèrent assez bien. Je vais souligner en vert ce qui est évidemment le parallèle entre les deux strophes. Le premier-né. Premier-né avant toute créature, forcément, puisqu'il est logos éternel. Premier-né d'entre les morts, qu'il faut comprendre comme le premier-né des mortels, car il est devenu homme, il est mort et il est ressuscité. Premier-né d'entre les morts. C'est donc bien lui, le Fils éternel, le premier-né avant toute créature et avant tous les siècles, qui est mort et ressuscité. Cette icône, je vous montre cette icône parce que c'est une icône traditionnelle, hein, d'origine, c'est un manuscrit, une miniature d'un manuscrit carolingien, mais d'origine byzantine. On voit très, très nettement l'influence byzantine. Et qu'est-ce qu'on voit là? Le premier-né d'entre les morts. Ouais, c'est-à-dire, il est descendu aux enfers, il va chercher les morts aux enfers. Et vous voyez, sous ses pieds, le cadavre de Enfer, Monsieur Enfer. Et vous voyez à côté les portes déglinguées avec les serrureries qui ont volé. Donc il a brisé les portes de l'enfer et il est le premier-né et il entraîne derrière lui la foule des hommes. En bleu, on a vu donc le premier-né en bleu, toutes ces répétitions aussi qui signalent la totalité. Avant toute créature, bon, en lui tout fut créé, tout est créé, toute chose, tout subsiste, afin qu'il ait en tout la primauté, etc. Vous l'avez bien repéré, tout, pan, en grec, d'où vient le mot pantocrator. C'est bien ce dont il est question ici, il règne sur toute chose, il emporte toute chose dans la résurrection. Alors, vous avez une petite anomalie que vous avez repérée.
Merci beaucoup.
En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, figurez-vous que c'est une manière juive pour traduire le concept grec de dynamis. Dynamis, en grec, c'est ce qui met tout en mouvement. Bien, les Hébreux avaient également leur vocabulaire, et on en a fait au Moyen-Âge, au très haut Moyen-Âge, c'est un moine syrien au VIe siècle, qui en a fait des puissances angéliques. Et donc, vous savez, il a trouvé 9 noms d'anges. Alors, il y en a que vous connaissez, hein, Il y a les archanges, il y a les séraphins, les chérubins. Et il a trouvé, du coup, puissance, principauté, souveraineté, domination. Il en a fait des forces angéliques. Et il en a comme ça dénombré 9. Enfin, donc, voilà. Vous inquiétez pas sur ces puissances, principautés. Il ne s'agit pas de la principauté de Monaco, ni des puissances des armées impériales. Ce sont des forces qui mettent en mouvement le monde. Ouais, et donc, c'est en lui qu'ont été créées ces forces. Alors, René Descartes s'est posé la question, figurez-vous. Parce que vous savez, René Descartes, c'est un philosophe, tout le monde pense que les philosophes sont athées, mais pas du tout. La plupart sont chrétiens. À René Descartes, on doit même une des preuves de l'existence de Dieu. Et René Descartes s'est posé la question. C'est un physicien de formation. Et lui, il voit dans ses puissances, principautés, souveraineté, domination. Il connaît les philosophes grecs, donc il connaît le principe de la dynamis. Et lui, il en fait les vérités, les lois éternelles. C'est quoi les lois éternelles de la physique? Par exemple, la pesanteur. Par exemple, la force centrifuge. Voilà, donc vous voyez ici, bon, peu importe, hein, c'est juste pour répondre au côté énigmatique de cet énoncé. Je signale encore, en rouge, les incroyables répétitions. Et si on était professeur de français, on se dirait, mais enfin, il écrit comme un pied. En lui, tout fut créé, tout est créé par lui, pour lui, en lui, et ça répète après. Donc, vous voyez ce genre de répétition. Encore une fois, c'est fait pour focaliser notre attention sur le Christ comme créateur et sur le Christ comme rédempteur. Lui, en lui, par lui, pour lui. Vous savez, dans ce « en lui, tout fut créé », par lui tout fut créé, pour lui tout fut créé, vous avez l'alpha et l'oméga. Le Christ est l'alpha, il est le commencement de toute chose, et il est la destinée de toute chose. Toute chose a été créée pour lui. Continuons avec la troisième lettre. Il écrit maintenant aux Éphésiens. Vous remarquez qu'il y a à nouveau un Rembrandt. Rembrandt était très fasciné, il en a peint 7 ou 8 hein, des saint Paul. Donc voilà saint Paul qui écrit ses lettres. Cette fois-ci, il n'est pas en prison. La troisième ligne christologique est considérée par la plupart des exégètes comme un développement de la précédente, donc incarnation-résurrection. Elle est écrite également de la prison où se trouve Paul à Rome. Saint Paul connaît très bien Éphèse. C'est l'endroit où il est resté le plus longtemps. Parce que vous savez que Paul restait très peu dans les endroits qu'il fondait. Il restait quelques mois. Hein. Et puis, il s'en allait. À Éphèse, il est resté 2 années entières. Alors que d'ordinaire, donc, il reste très peu. Cet hymne, comme les deux autres, a une fonction liturgique. Ce qui est particulier, ici, c'est qu'elle résume toute l'épître. Donc, il est probable que Paul a pris cet hymne et en a fait le commentaire. Il est probable aussi qu'il en est pour une part l'auteur. Donc voilà, une petite différence par rapport aux deux autres que je vous ai montrées. C'est la raison pour laquelle celle-ci va être un petit peu plus sophistiquée, parce que Paul, c'est un intello, c'est pas un poète. Donc, vous allez voir ça tout de suite. Et donc, il a probablement mis la main à cette hymne. Voyons ça. Vous l'avez sur vos feuilles. Je vous la lis entièrement une première fois. Ensuite, je mettrai le texte en image, partie par partie. Donc, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai déjà mis des repères parce que je suis un gars sympa. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel en Christ. Il nous a choisis en Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. C'est 1 et 2. Voici 3 et 4. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute intelligence et sagesse. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu en Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses en Christ, celles du ciel et celles de la terre. Donc ça, c'est 3 et 4. Voici 5 et 6. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous avons été prédestinés, selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint, et l'Esprit promis par Dieu, et la première avance sur votre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Voilà, j'ai donc déjà, vous avez déjà repéré quelques signaux. En jaune, j'ai mis l'Esprit Saint, dernière strophe, première strophe. À la louange de sa gloire, deux fois au début, deux fois à la fin. Je reprends l'hymne avec les répétitions classiques. Hein. Maintenant, j'y insiste plus parce que vous avez bien reconnu en lui, par lui et pour lui. Alors là, on a neuf fois en Christ dans l'hymne que je viens de vous lire. Dans la première strophe, vous avez aussi la présence de l'Esprit Saint. Dernière strophe, idem. L'ensemble de cet hymne est très trinitaire. Il nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Voilà qui demande une explication. Car, encore une fois, il y a des risques d'impasse, des risques de mauvaise interprétation. Prédestination. Prédestination, ça ne veut pas du tout dire le fatum latin, la fatalité. Du genre... moi je suis né, tout le monde meurt dans ma famille à 50 ans par un cancer, nous sommes, c'est écrit, c'est fatal, je suis prédestiné. C'est pas ça du tout la prédestination. Prédestination, dans l'épître, dans la théologie de saint Paul, ça veut dire que Dieu nous a toujours voulu pour lui, que quand il nous a créés en Jésus-Christ, c'était pour que nous soyons liés au Christ. Et donc, quand il s'est incarné, quand il a créé le monde même, hein, il a voulu nous confier le monde. C'est la raison pour laquelle il est dit au verset 4, il nous a choisis en Christ, c'est-à-dire dans son Verbe éternel créateur, avant la fondation du monde. Pourquoi Dieu a-t-il fait le monde? Parce qu'il s'ennuyait? Évidemment non. Il l'a fait pour se répandre, pour se donner. Et il avait comme projet déjà de confier son œuvre créée à un gérant, nous. Et donc, nous sommes prédestinés, vous voyez, dans ce sens-là. Voilà, c'est ça le sens de la prédestination. On en verra un deuxième que je vous dis tout de suite. Hein. Nous sommes prédestinés à connaître Dieu. Ça, c'est un thème que vous revoyez sans arrêt. Vous avez repéré, là, mon verre est un peu passé, mais vous avez repéré dans la dernière strophe que je vous montrais à l'instant, et ici la première, béni soit et à la louange. Deux fois la louange, une fois l'Esprit Saint, et donc les thèmes que je viens de vous signaler. Au centre, vous avez dans le second groupe, 3 et 4, avec les repères que je mets en lui. Et c'est ici la quatrième strophe qui permet de comprendre la troisième. Le Créateur nous expose son projet. Alors voilà encore quelque chose qui demande une explication. Regardez verset 9. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté. Ah mais ça c'est bien étrange parce que au caté on vous a dit, et un grand nombre de gens peu instruits vous disent que le mystère dans la foi chrétienne c'est essentiel, c'est parce qu'on ne peut pas comprendre. Et donc, il y a le mystère de la messe, il y a le mystère de la Sainte Trinité, etc. Et bien, c'est un contresens complet. Parce que précisément, le mystère, c'est ce qui s'affiche. Souvenez-vous des mystères médiévaux. C'est quoi un mystère médiéval? Au Moyen-Âge, il y avait des mystères. C'est quoi? Ben, c'est le cinéma de l'époque. C'est le théâtre de l'époque. C'est-à-dire un mystère, au Moyen-Âge, c'est un jeu scénique qui vous montre les choses, Et donc, le mot mystère veut dire au contraire ce qui se montre et non pas ce qui se cache et qui doit rester incompréhensible. C'est la raison pour laquelle il est dit « il nous dévoile ainsi le mystère », c'est-à-dire la pédagogie de sa volonté. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut vraiment bien comprendre. Vous avez aussi, le verset, maintenant que nous avons compris ça, que nous sommes appelés à participer à ce projet, à cette volonté de Dieu, donc de conduire les choses, les temps à leur plénitude, alors on peut comprendre la strophe du dessous. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous parlais de la libation, être cohérent jusqu'au bout. Dieu se déborde son don, et alors la précision de Paul, ça c'est du Paul. Ce débordement, vous voyez que ça n'a rien à voir avec le mystère, en toute intelligence et sagesse. Donc vous voyez, très intéressant de contester les interprétations à deux balles que vous avez entendues pourtant mille fois, qui consistent à dire, vous savez, la foi c'est un grand mystère, on ne peut pas comprendre. Paul dit le contraire. Paul dit le contraire et la tradition chrétienne dit le contraire. C'est-à-dire, au contraire, nous sommes appelés à rentrer, non pas dans l'épaisseur ténébreuse du mystère, mais dans le dévoilement de toute sagesse et intelligence qui déborde de Dieu par la révélation qu'est Jésus-Christ. Donc voilà. Ah oui, je vous mets avec quelques petites images, je vous répète, j'ai oublié de passer mes photos, donc voilà, je voulais vous montrer, vous commenter tout ça ici, avec cette photo, c'est-à-dire que le mystère de sa volonté, et selon que sa bonté l'avait prévu en Christ, c'est que nous sommes les gardiens de sa création. Et nous sommes les créateurs continués. Et c'est donc dans cette récapitulation de toutes choses en Christ, conduite par nous, nos œuvres de création reconduisent les choses en Dieu. Nos œuvres d'art, aujourd'hui, quand même, on peut dire ça, de l'œuvre d'art, hein, qui reconduit toutes choses à la louange. Et voilà l'image que je vous prévoyais pour la richesse de sa gloire, de sa grâce qu'il a fait déborder jusqu'à nous. Par son sang, nous avons la rédemption, ça j'ai largement expliqué, mais je le reprends, hein, c'était la dernière fois, n'oubliez pas, hein, attention au contresens, par son sang, nous avons la rédemption, c'est donc pas le prix qu'il a payé à son père, vous vous souvenez bien, hein, mais c'est par sa vie, vous voyez, celui qui boit mon sang à la vie en lui, le sang, c'est la vie, vous vous souvenez, hein, ça, de la culture juive, c'est pour ça qu'on ne mange pas le sang des animaux, car le sang, c'est la vie. Et donc, quand on nous dit, je vous donne mon sang, je vous donne mon corps, nourriture pour vous de la vie éternelle, ce n'est pas du cadavre dont il s'agit, ni de la flagellation, c'est de sa vie, de son ministère public, du fait qu'il se soit donné. Quand il nous donne son sang, il nous donne sa vie. Nous communions à sa vie, pas à ses souffrances. C'est lui qui communie à nos souffrances. Donc voilà, c'est des petits rappels, vous voyez, qui sont plutôt importants. Voilà les deux dernières strophes. Hein. Je continue ce travail un peu méticuleux, vous voyez, mais qui est quand même très intéressant. Dans ces deux dernières, revoilà l'Esprit Saint, voilà les marques, en lui bien sûr, hein, l'Esprit Saint. Et dans ces deux strophes, Paul évoque d'une part les Juifs, les premiers héritiers et ministres de la promesse, hein, ceux qui ont d'abord hérité de cette mission, et d'autre part, dans la dernière strophe, les chrétiens issus du paganisme. Alors, à quoi voit-on ça, hein? Bien, Paul, d'abord, il ne cessera jamais de se dire juif, pharisien, fils de pharisien, disciple de Gamaliel. Il le dira, il le répétera. Hein, et il sait bien que les Juifs sont le peuple à qui Dieu a parlé en premier. Il sait bien aussi que les Juifs espèrent le Messie, mais ils n'ont pas vu en Jésus-Christ le Messie. Et quand il dit « Dieu a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire », ça, en effet, le peuple juif ne l'a jamais trahi. Leur vie, même le zèle des pharisiens, est une affirmation de la présence de Dieu dans les plus petits détails. Et les pharisiens veulent faire de toute leur vie une louange à Dieu. Et donc, jamais, jamais, Paul ne dénigre le peuple juif. De même, vous savez, Saint Jean, hein, qui ira jusqu'à faire dire au Christ, enfin, qui ira jusqu'à noter cette parole du Christ stupéfiante, stupéfiante surtout au XIXe siècle ou au XVIIIe siècle, ou même avant pour les antisémites, où Jésus dit « Le salut vient des Juifs ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, il veut dire que le salut a été d'abord, cette mission du salut du cosmos a d'abord été confiée aux Juifs. Et ce sont nos pères. Donc voilà, ça c'est Jean. Tout ça pour vous dire, la première strophe, c'est les Juifs. Voilà, c'est... La seconde strophe, ben, c'est nous. C'est la communauté d'Éphèse, c'est les païens. Vous aussi qui n'êtes... Ouais, c'est pour ça, en lui, vous aussi, qui n'êtes pas Juifs, après avoir écouté la parole de vérité, la parole du Christ, l'évangile de votre salut, donc le salut n'est plus dans la loi des Juifs. Et après y avoir cru, vous avez reçu la marque du Saint-Esprit. Donc, ce qui habite votre existence, ce n'est plus les mitzvot de la Torah, c'est l'Esprit-Saint, la nouvelle loi. Voilà. Donc voilà l'essentiel de cet hymne. Je donne quelques rappels. Vous retrouvez le thème de la prédestination. Donc maintenant, vous l'avez compris. Et donc le domaine particulier de Dieu, c'est la première strophe. Nous qui avons d'avance espéré en Christ, ce sont les Juifs, mais qui n'ont pas reconnu le Christ comme le Messie. Je passe tout ça. Après avoir écouté la parole de vérité, c'est bien de l'Évangile dont il est question. Vous avez reçu la marque du Saint-Esprit, c'est bien notre mode d'intelligibilité de Dieu qui nous est donné, et non plus le fait de servir la loi juive. Bon, voilà, on a fini avec Philippiens, Colossiens, Éphésiens. Ce sont des hymnes que vous ne pouvez pas comprendre si vous ne les lisez pas dans leur structure poétique. Voilà, c'est les structures qui permettent de bien les comprendre. On va passer maintenant au chapitre suivant, le baptême du Christ. C'est également encore un peu d'écriture sainte, mais nous allons là aller beaucoup plus dans le concret, dans des scènes bien connues. Alors, un instant, je fais une petite manip. Hop, voilà. Voilà. J'ai coupé le son à tout le monde parce que il y avait quand même un bruit de fond incessant. Alors, le baptême du Christ maintenant. Voilà, si tu veux bien passer la photo suivante. Bah alors, voilà. Bien évidemment, notre compréhension du baptême chrétien nous égare quelque peu quand il faut comprendre le baptême du Christ. Improprement d'ailleurs nommé baptême. Ce n'est pas vraiment un baptême. Il faudrait dire épiphanie ou hiérophanie, c'est-à-dire manifestation du sacré. Et épiphanie, ça veut dire épi, au-dessus. Et phanéo, ça veut dire le visible. Et donc, épiphanie, c'est ce qui est survisible, pourrait-on dire. Il y a l'invisible. Et il y a le survisible, c'est-à-dire l'évident, le manifeste, c'est ce qui se manifeste, épiphanie. Hiérophanie, c'est la manifestation du sacré. Et théophanie, ce qui est bien la scène du baptême, c'est la manifestation de Dieu comme Dieu. Le baptême du Christ avait été fêté jadis en même temps que les noces de Cana. Récit qui se conclut par ces mots, « Tel fut le premier des signes, c'était à Cana, et il manifesta sa gloire. » Voilà, c'est encore le cas, vous savez, ce conglomérat de fêtes, c'est encore le cas chez les orthodoxes aujourd'hui, qui fêtent cette théophanie, donc, 10 jours après Noël. Théophanie, ça veut donc dire la visibilité de Dieu, la manifestation de Dieu trinitaire. C'est dans le sens de ce baptême de Jésus par Jean-Baptiste que nous pouvons, c'est dans ce sens que nous pouvons comprendre cette scène. C'est ce que nous allons voir. Qui est Jean-Baptiste? Que fait-il là? Et qu'est-ce qui lui prend de baptiser les gens et de tenter de le faire pour Jésus? Je dis bien tenter de le faire pour Jésus, parce qu'il ne va pas le faire. On va voir. Jean-Baptiste est d'une famille sacerdotale, c'est-à-dire qu'il est la tribu de Lévi. Son père dessert le temple quand c'est son tour, une fois toutes les 5 semaines. Son père, c'est Zacharie, dont on parle dans l'évangile de Luc. Et c'est donc probablement Jean-Baptiste, quelqu'un qui connaît très bien les usages religieux du temple et les coutumes juives, ainsi que leur sens. Aussi procède-t-il à une amplification d'un rituel très en cours chez les Juifs. Ce sont les bains rituels. Toutes les bonnes familles, un peu fortunées bien sûr, ont un espace dédié à cet usage dans leur maison. Et ce n'est pas la salle d'eau. Ce n'est pas pour des raisons sanitaires qu'ils ont ça. Ils ont une salle d'eau par ailleurs. Ici en Espagne, hein, bien sûr, mais on en a découvert, je vous l'ai mis, mais on en a découvert à Strasbourg, à Bayonne, en Alsace, à Cologne. Ça s'appelle un mikvé. Le mikvé, c'est un bain de purification. Il n'est fait que pour ça. Il n'est pas fait pour aller faire de la thalasso, de se détendre et encore moins se laver. C'est un rituel de purification religieuse. Et pourquoi? Eh bien, parce que les Juifs zélés veulent vivre les 613 prescriptions qu'on appelle des mitzvot de l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas possible. Saint Paul le dira d'ailleurs hein, lui-même. Il dira, si vous mettez votre confiance dans la loi, alors la loi vous condamne, puisque jamais vous n'arriverez à vivre les 613 prescriptions. Donc le bon juif bien pieux le sait, ça. Et donc tous les jours, eh ben, il est fautif. Et donc, s'il est fautif par rapport au mitzvot, il contracte une impureté rituelle. Parce que, ben, il y a 400 sur les 613, il y en a 430 qu'il n'a pas réussi à accomplir dans la journée. Donc, il est impur. Vous voyez, quelle étrange religion. Hein. Ça, c'est le paroxysme hein, auquel on est arrivé du temps de Jésus. C'est pour ça qu'il y avait plein de divisions, hein, parce que tout le monde n'était quand même pas d'accord avec ça. Et donc, le bain accompagné de prières est censé nous rendre purs. Bon, voilà. Donc, Jean-Baptiste a très certainement connu tout ça. Mais il n'était pas très d'accord. Mais pourtant, il procède à grand succès à un geste, disons, du même genre, mais avec un geste de prophète. Il va au Jourdain, le fleuve frontière vers la terre promise. Il ne va pas dans un mikvé. Et il demande non pas des pratiques de purification liées aux scrupules, mais une conversion existentielle. Et ça, c'est très nouveau. C'est très nouveau. Hein. Et dans toutes les religions du monde, il y a les religions chrétiennes y compris, on est toujours tenté de préférer les impuretés aux conversion existentielle. Nous sommes des obsédés de l'impureté. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Vous avez un petit code, alors 613, c'est beaucoup quand même, hein. Mais vous avez un code, et vous pouvez être la pire canaille du monde. Si vous êtes un bon juif, vous vous trempez le soir dans votre mikvé, et tout va bien. Et vous essayez évidemment de pratiquer quand même le nombre de géniflexions qu'il faut, laver la gamelle comme il le faut, poser la main sur la mémora comme il le faut. Vous essayez de faire tout ça quand même. Vous vous trempez alors que vous vous trempez le soir et tout est guéri. Tout est passé à la machine à laver. Alors que Jean-Baptiste propose un bain, certes, mais ce n'est pas un bain de purification. Et deuxièmement, il propose une conversion existentielle. Ça veut dire quoi, conversion existentielle? Ça veut dire que je change vraiment ma vie. D'où, vous savez, les questions que les gens lui posent. Les soldats, des soldats qui lui disent bah, « qu'est-ce qu'on peut faire, nous ?» Et Jean-Baptiste leur répond « et le collecteur d'impôts ?» etc. Bon, vous connaissez tout ça. Mais tout à fait dans le ton des prophètes, en gros, ce qu'il dit, « ce n'est pas vos offrandes que je veux, dit déjà Dieu par Isaïe, hein, mais que vous pratiquiez la justice. » Les religieux d'appareil préfèrent nettement qu'on s'en tienne aux observances rituelles. Pourquoi ? Eh bien, parce que là, ils peuvent contrôler, tarifer, culpabiliser. Et notez bien que c'est toujours pareil. Vous voyez, les religieux d'appareil. Mais, dit Dieu, cette fois par Amos, je cite, « ce qui me répugne, c'est que vous soyez vautrés dans des divans de luxe, que vous consommiez des loisirs très onéreux pendant que les pauvres ont faim. » Amos, chapitre 6. On croirait entendre le pape François. Donc voilà, Jean-Baptiste propose ça, une conversion existentielle. Vous voyez qu'il n'est pas le premier, hein, il y a Isaïe, il y a Amos. C'est ainsi que Jean-Baptiste a certainement une très grande réputation. Il est plus audacieux, plus authentique que la classe sacerdotale de laquelle pourtant il est issu. Mais il est beaucoup moins rituélique, c'est-à-dire lié au rite, qu'eux. Il invente des nouveaux rites. Et il est moins fermé que les Esséniens. Les Esséniens, c'était ses anciens compagnons. Il a probablement fait un stage chez les Esséniens, mais les Esséniens sont très fermés. Ils se mettent à l'écart, ils ont en dégoût les autres. Ce n'est pas son cas, il va au contact des gens. Et son geste rentre bien dans les pratiques connues et sincères du peuple juif, puisqu'il s'agit de se tremper dans l'eau. Donc ça ressemble au migvé. Déjà, quand on a compris ça, tout ce que je viens de vous dire, on a déjà beaucoup compris sur le baptême de Jean-Baptiste. Mais une question se pose immédiatement. Que vient faire Jésus ? Dans ce truc. Bien sûr, il est fort loin, des prédications de culpabilité qui demandent des purifications. Et lui-même, bien sûr, n'éprouve ni cette culpabilité, souvent narcissique, ni cette notion biaisée de pureté. Mais, une autre question. A-t-il besoin de se convertir puisque Jean-Baptiste fait un baptême de conversion ? Bah, probablement pas. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire ? Qu'est-ce qu'il vient faire au baptême de Jean-Baptiste ? Eh bien, il vient rejoindre ceux qui peuvent être rejoints. Il vient rejoindre ceux qui peuvent être rejoints parce qu'ils ont fait le premier pas. Ils veulent changer. Ils ont un désir de changer leur existence et pas de rajouter des préceptes aux 613. Et donc là, il peut y aller. Et donc, quand le Christ va recevoir ce geste, qui, je le rappelle, n'est pas un baptême, vous allez comprendre, c'est une épiphanie, eh bien, il vient rejoindre, il vient s'associer à ceux dont il pourra faire des disciples. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Il va vers ceux qui désirent vraiment changer, ou au moins tenter. Il va vers ceux qui cherchent le bien. Il l'a dit lui-même, hein. Je ne suis pas venu pour... Je suis venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Et donc là, il va rejoindre un peuple, il va se plonger au milieu d'eux, c'est le cas de le dire. C'est pourquoi j'ai choisi deux tableaux de Nicolas Poussin. C'est le seul petit écart iconologique d'aujourd'hui. Nicolas Poussin qui rend bien compte que Jésus vient se joindre à ceux qui commencent quelque chose, qui ont déjà une démarche de conversion. Voici un tableau de 1635, il est au Louvre celui-ci. D'abord, il y a du monde, beaucoup de monde, même sur l'autre rive. Et ça bouge beaucoup ici. Ici, au premier plan, quelques-uns se sont empressés de se dévêtir. Pourquoi ? Pourquoi je pose cette question ? Pourquoi ? Parce que remarquez, regardez, ils ne sont pas dans l'eau. savez, tout le monde croit qu'il y a les baptêmes par immersion. Alors c'est vrai, hein, le texte évangélique nous le dit, il baptise dans le Jourdain. Mais là, c'est clair, voyez, il a une espèce de petite coupe en main, Jean-Baptiste, qu'il a déversée sur la tête de l'homme qui est à ses pieds, et là, il est en train de prononcer une prière. Donc, ce n'est pas un baptême par immersion, c'est un baptême comme nous le pratiquons aujourd'hui. Et comme on le pratiquait quand le tableau a été peint, en 1635. Alors, ça pose la question, mais bon, c'est une question. Les baptêmes par immersion ont-ils jamais existé? Alors, ils ont existé dans des fleuves, quand Vladimir s'est converti, ou quand Charlemagne a procédé au baptême des Saxons. Donc là, on utilisait des fleuves, ça se passait par immersion. Mais est-ce que le baptême par immersion a jamais existé? L'archéologie dit le contraire, dit que ça n'existe pas. Ah voilà, ça, je vous dis ça parce que c'est hyper intéressant de le noter au passage. Bon, bref. Alors, on voit bien dans ce groupe qu'il y a ceux qui s'empressent, mais le peintre met toujours une petite part de gens qui ils sont quand même venus, ouais. Ils voudraient bien se convertir. Mais la prédication de Jean-Baptiste est quand même un petit peu exigeante. Il faut changer sa vie. Alors, bah, on est un peu sceptique. Ça, c'est le tableau de 1635. Voici l'autre. Quelques 5 années avant, il est beaucoup moins, je sais pas comment dire, plus lumineux, plus méditerranéen, plus léger, plus transparent, moins chargé de couleurs. Il y a quelques bougons. Regardez à gauche, tout à fait à gauche, il y en a un qui se gratte la barbe. À droite, il y en a deux qui discutent encore entre eux. Mais ils sont beaucoup moins arrogants. Ils sont plus renfrognés, plus un petit peu boudeurs, sceptiques. Mais tous les autres sont prêts à se jeter à l'eau. Encore une fois, ce n'est pas ce que leur demande d'ailleurs Jean-Baptiste, parce que là aussi, il les baptise comme on fait aujourd'hui. Mais regardez, sur celui-ci de 1630, il est à Bruxelles, il est très intéressant parce que de l'autre côté, on voit sûrement le Christ. Le Christ qui vient rejoindre ces gens-là, parce qu'avec eux, la moitié du travail est fait. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Je ne suis pas venu pour les bien portants, pour ceux qui croient qu'ils sont bien portants, pour ceux qui comptent sur les 613 prescriptions, qu'ils en ont accompli 400 et qu'ils sont fiers d'eux. Je viens pas pour cela. Je viens pas pour ceux qui se croient des justes. Mais je viens pour ceux qui cherchent à conformer leur existence aux exigences de la justice et aux appels de Dieu. Donc voilà, et pour comprendre le baptême du Christ, ça c'est déjà pas mal, hein. Mais il y a plus. Les Byzantins nous le disent, c'est une théophanie, c'est-à-dire que Dieu se montre. Mais comment se montre-t-il? Il se montre comme sauveur par quatre choses. Le Jourdain lui-même, la colombe, le ciel qui s'ouvre et la Trinité. Voilà les quatre manière dont Dieu se montre comme sauveur. Le Jourdain lui-même est un signe du salut. Si Jean-Baptiste s'est mis là, loin des villages, c'est parce que le Jourdain est pour tous les Juifs la frontière vers la terre promise. C'est la frontière que Josué, à la tête des Hébreux, a franchie en grande pompe pour rentrer en terre promise. Et donc venir au baptême de Jean, c'est annoncer cette terre promise, celle d'un peuple religieux ayant le souci de Dieu et non pas le souci des observances. Jésus, en se faisant baptiser par Jean, confirme cette intuition. Alors, c'est la conjugaison des signes qui vont être explicites. Le ciel s'ouvre, la voix se fait entendre, tout dit, je suis la terre promise. Ne cherchez pas des utopies, ne cherchez pas une part du territoire ici ou là. Ne cherchez pas une terre paradisiaque, ça n'existe pas. Ou une nation sans querelle, ou un bon roi, ou je ne sais quoi. La terre promise, c'est Dieu fait homme. C'est Jésus. Et voilà donc la signification du Jourdain. Et c'est probablement la raison pour laquelle les évangélistes ont bien noté que Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain. Ils y insistent tous. Hein. La colombe. Ben, la colombe confirme cette idée. C'est elle, mais elle est une quasi-citation de Noé. Vous vous souvenez, c'est d'où cette image. Hein. C'est une histoire fabuleuse, bien sûr, que tout le monde connaît. Quand le corbeau lâché par Noé ne revient plus, ben, il y a deux hypothèses. Soit il est mort d'épuisement, soit il a trouvé une terre lointaine, donc une terre. Alors, Noé, à ce moment-là, envoie une colombe qui tarde à revenir, mais revient finalement avec un rameau d'olivier. Il y a donc la vie quelque part, c'est le salut. La colombe, c'est le salut. La colombe au-dessus du Christ, sortant des eaux, le Christ sortant des eaux, la colombe au-dessus du Christ, c'est bien la même chose. Il y a une terre quelque part, c'est le salut. Et donc, elle désigne, la colombe désigne Jésus en disant « c'est le salut ». Vous voyez comme ces images hein, sont de vraies leçons, des détails dans la description du baptême de Jésus, mais sont des vraies leçons et des explications, mieux que des exposés. Troisième aspect du salut dans le baptême de Jésus, et non pas le moindre, le ciel s'ouvre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que le ciel était fermé. Les prophéties, regardez, comme ici, Giotto a montré une explosion du ciel. Il ne s'ouvre pas, il explose. Qu'est-ce que ça veut dire, le ciel était fermé ? Ben, ça veut dire que les prophéties s'étaient tues. La lampe du temple n'était plus entretenue, comme on entend dans l'Ancien Testament, hein, dans le livre de Jérémie. La religion s'est éteinte, elle s'est sclérosée. Il y a trop de distance entre Dieu et sa création. C'est quelque chose que tous les religieux du monde éprouvent très fortement. Le ciel est distant. Dieu n'est pas si aisément expérimenté. Le ciel est fermé donc de ces deux manières. D'abord, c'est difficile de comprendre les réalités éternelles. Et deuxièmement, l'énergie, la foi, s'est épuisée. Le peuple d'Israël vit dans l'espoir que le ciel s'ouvre, dans l'espoir qu'il y ait encore possibilité de connaître, sinon Dieu, au moins quelque chose de lui. Et c'est toute la méditation que vous connaissez évidemment de l'échelle de Jacob. Je vous le rappelle, hein, c'est ce patriarche, Jacob, le frère d'Ésaü. Ça se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 28. Il fuit son frère, vous savez, parce qu'il vient lui voler son droit d'aînesse. Bon, très bien. Et il s'endort après avoir passé la frontière. Et là, il fait ce songe et il voit une échelle dressée entre ciel et terre avec des anges qui y montent et qui descendent. C'est donc que le ciel s'est ouvert et que Dieu se donne encore à connaître, des anges qui montent et qui descendent. Jacob s'éveille et dit, en vérité, c'est la porte du ciel, c'est la maison de Dieu. Autant d'expressions qui peuvent strictement viser Jésus au baptême. Le ciel s'ouvre, il est la porte du ciel, il est la maison de Dieu. Voilà. Que dire de mieux de lui ? D'ailleurs, lui-même confirme ce propos extraordinaire. On le lit dans Saint Jean, au chapitre 1er, c'est dans l'entretien avec Nathanaël. Jésus lui dit, « Tu t'étonnes, mais tu verras mieux encore. Vous verrez le ciel ouvert, vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre, c'est une citation de l'échelle de Jacob, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, au-dessus de moi. Je suis la porte du ciel. » Et donc, voilà les signes du baptême, vous voyez, qui sont autant de développements de cette scène, de la théologie. Jourdain, colombe, le ciel s'ouvre, et la Trinité. Reste la Trinité, bon, ça c'est très facile, bon, ça pour le coup, tout le monde vous l'a déjà dit, c'est mis en image très bien dans toute l'iconographie du baptême du Christ. Vous voyez, j'utilise encore l'expression baptême du Christ parce que c'est l'expression retenue, hein, y compris même dans le calendrier liturgique. Mais vous avez bien compris que ce n'est pas un baptême comme nous connaissons le baptême. Ça n'est pas non plus un baptême comme les gens qui viennent là le connaissent. Mais c'est une épiphanie. C'est-à-dire, il est manifesté comme Dieu, et ici, quatrième point, il est même manifesté comme dans la Trinité, avec la présence de l'Esprit-Saint. Et regardez, là, vous avez même la voix du Père, c'est un peu difficile à figurer, et donc vous avez une main qui sort du ciel. Celui-ci, bien, qui désigne Jésus, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Donc voilà pour le baptême du Christ. Hein. Un grand moment, comme vous voyez, et encore, je n'en ai pas tout à fait fini. Je reviendrai sur le baptême du Christ en toute dernière partie, là, dans 30 minutes. Abordons maintenant un autre massif extraordinaire, hein, les tentations du Christ. Le Christ fut-il tenté? Ah oui, mais pas comme nous. Avait-il d'ailleurs quelque appétence au mal? Ben non, pas comme nous. Appétence, vous savez, c'est une sorte de quête mêlée de plaisir et de calcul. En nous, l'appétence, nous avons de l'appétence pour quantité de choses, pas forcément mauvaise, mais cela relève plutôt de l'involontaire. C'est-à-dire que c'est involontaire, notre appétence, comme l'appétit. C'est d'où le mot, appétence. Bon, c'est comme ça. Mais on peut toutefois, comme l'appétit, on peut toutefois l'exciter, l'amplifier, ou au contraire, la pondérer, la tempérer, et même la sublimer par des satisfactions de l'existence qui ne soient pas, elles, empoisonnantes. Donc voilà, ça c'est pour bien expliquer les appétences. Pourquoi je parle d'appétence? Parce que c'est très souvent chez nous la forme faible de la tentation. On peut aussi et plus facilement tempérer la tentation, la contester, la tentation et l'appétence au mal, en développant et en entretenant l'appétence au bien, car elle existe aussi. Nous avons une tendance involontaire, là aussi, hein, et là aussi on peut l'amplifier ou la pondérer au bien, parce qu'il nous est naturel. Il habite certainement en nous. Le désir de bien habite certainement en nous. Vous verrez ça au prochain cours, le cours d'anthropologie. Donc, le Christ n'a pas le goût du mal. Pour le plaisir, oui. Dire cela, c'est aussi dire tout ce que je viens de dire. C'est une façon optimiste de parler de l'homme. Car l'homme a en lui un désir naturel du bien. L'homme, on peut même dire, a un déplaisir, parfois même un naturel dégoût pour le mal, l'injustice, la violence. Être pleinement homme, ça ne veut pas dire faire et goûter indifféremment le bien ou le mal. Mais être pleinement homme, c'est clairement préférer le bien et avoir en horreur le mal. Et c'est notre naturel penchant. Alors, on voit bien sûr, qu'il y a quelque chose de destructeur chez l'homme, notamment quand il fait ou quand il subit le mal. Mais c'est bien la paix qui est la nature de l'homme. Donc voilà, c'est ça qu'il faut réaffirmer avec cette histoire de la tentation. Car si le Christ a été tenté au désert pour y affronter les tentations, c'est pour nous dire que ce combat en nous n'est pas vain. Car si nous avons une naturelle destinée au bien, nous sommes aussi assaillis par les tentations. Le Christ veut les connaître pour nous dire, en étant le vainqueur, pour nous dire que ce n'est pas une fatalité, c'est-à-dire que le mal ne va pas forcément l'emporter. Non, dit-il en quelque sorte, non, dit-il, Satan ne l'emportera pas. Non, le mal n'est pas finalement toujours vainqueur. Donc voilà, ça c'est bon, mais ça pour le coup, on vous l'a vraiment dit, je pense, 100 fois dans les homélies. Alors, on peut voir les trois tentations hein, qu'il connaît comme les archétypes. Alors ça, c'est intéressant. Dans Luc, on nous donne cette précision qui est presque une curiosité. On va en voir plusieurs de curiosités avec les tentations, quand même, vous allez voir. Dans Luc, il nous donne ce détail. Regardez le petit dessin, d'ailleurs, comme c'est rigolo. Il a l'air complètement dépité, le pauvre Satan. Ainsi, ayant épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus. Toutes les formes de tentation, il n'y en a que trois. Eh bien, en effet, les trois semblent récapituler l'ensemble de nos tentations. Alors, je vous le montrerai dans un schéma final. Voici le texte des tentations, vous le connaissez par cœur. Il ne mangea rien pendant 40 jours, finalement il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « L'homme ne vit pas seulement de pain. » Et il cite l'Écriture pour répondre. Alors le diable l'emmène plus haut, lui montre en un instant tous les royaumes de la terre. « Je te le donnerai tout ce pouvoir et leur gloire, car cela m'a été donné, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, il répond une deuxième fois en citant l'Écriture, « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, le plaça au sommet du temple, il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas. » Car il est écrit, vous voyez, Satan utilise l'Écriture cette fois. C'est lui. Il donnera pour toi et à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, deux fois ici de l'Écriture, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Donc voilà, vous connaissez les trois, on va les reprendre rapidement. La première tentation, c'est facile, hein, c'est la faim. Ah ben, elle est naturelle pourtant la faim. C'est évidemment pas un mal, ni une tentation. Alors, ces petites scénettes, vous voyez, qui nous sont proposées là pour la tentation du Christ, sont donc construites, si elles figurent toutes les formes de tentation, c'est donc que c'est pas la faim qui est visée, c'est le désir de satiété, c'est le désir du gavage, le gaspillage, le consumérisme. C'est ça qui est visé, c'est pas la faim, mais la satiété, la boulimie. Alors vous avez remarqué, mais je l'ai signé au passage, si tu es le Fils de Dieu, la tentation se présente comme sous forme de défiance et comme sur une cour de récréation, de mise en cause de ce que Jésus est fondamentalement, ce qui se dira avec évidence à la troisième tentation. Vous avez remarqué aussi, je vous l'ai dit, la seule défense de Jésus, l'Écriture. Seconde tentation, elle est bien plus étrange. Et là, il y a des choses vraiment qui vont attirer notre attention. Peut-être que vous avez déjà eu quelques explications, quelques homélies qui ont bien pointé ça. Le diable l'emmène plus haut, donc, et lui montre, regardez les détails, il lui montre en un instant tous les royaumes de la terre. Bah, là, il faut vraiment être dans les puissances célestes. Hein. Et il lui dit, alors voilà ce qui est stupéfiant, voilà le détail étonnant. Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Ça, c'est stupéfiant. Et le Christ ne conteste pas. Il ne conteste pas cette affirmation. Là, il y a de quoi quand même, véritablement, nous ébranler. Et c'est, pourquoi ? Est-ce que ça voudrait dire que tous les pouvoirs sont forcément sataniques ? Alors, bien sûr que non, bien sûr que non. Hein. Par exemple, les pouvoirs politiques ne sont probablement pas sataniques, mais leur gloire, oui. Et tous ces appareils, tout ce luxe, ce lustre autour du pouvoir, mais que ce soit le pouvoir des politiques, que ce soit le nôtre, hein, que ce soit autour de nous, et tout pouvoir a une tentation de toute puissance. Voilà, donc, et finalement, eh bien, c'est quand même pas mal que ce soit dans cette parole de l'Évangile et que le Christ ne conteste pas, comme c'est bien vu. Évidemment, il est facile de déraper quand on a le pouvoir, déraper vers quoi? Vers le désir de soumission, vers la toute-puissance, vers le plaisir de montrer quelques supériorités. Et ça, il n'y a pas besoin d'être chef d'État ou chef d'armée pour ça. Ça se passe partout. Cette tentation va de ce qu'il y a de plus total jusqu'au petit galon qui rend ridicule celui qui en use avec orgueil ou prétention. Et donc, humiliation, dérision, autoritarisme, etc. À noter donc ici, Satan ne dit pas « si tu es le Fils de Dieu ». Il y reviendra pour la troisième tentation. Jésus lui répondit, évidemment, « c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte ». Quelle belle réponse quand il s'agit du pouvoir. Vous voyez, c'est une réponse qui nous est faite à nous, et pas à Satan. Ou alors, au Satan qui sommeille en nous en matière de pouvoir. Nous sommes prêts à rendre un culte à quantité de choses qui règnent sur nos vies. Donc voilà, ça c'est une phrase très importante du Christ. C'est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras. Pas devant les idéologies, pas devant ton compte en banque, pas devant tes vacances. Et à lui seul, tu rendras un culte. Pas au succès de tes gosses, pas à ta carrière promise, etc. etc. Bon, voilà, ouais, c'est évident. Ouais, je vous dis, hein, les trois tentations, on nous dit, Luc nous dit que ça résume toutes les tentations. Voilà, donc, on pourrait développer encore. La troisième tentation, ça se passe en haut du temple de Jérusalem, il ne manque pas d'air hein, quand même. Hein. Il l'emmène au lieu le plus saint. Comment comprendre cette tentation? Eh bien, moi, je la traduis souvent en disant que c'est le Harry Potterisme. C'est-à-dire, alors, une tentation très, très, très présente. Hein. C'est-à-dire la tentation de la magie, peut-être même de l'infantilisme. Et il demande au Christ de faire un bon coup, de faire de l'esbrouffe, pour montrer combien il est puissant. Tiens, on vient d'en parler dans la tentation précédente. Pour montrer sa divinité, pour prouver qu'il est Dieu. Alors, fais-nous un coup éclatant. Fais le magicien. Et Dieu, évidemment, lui dit que non. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Alors ça, c'est très intéressant, vous voyez, de bien rappeler cette tentation hein, qui porte sur le dévoiement de ce qu'est Dieu. Hein. Dieu n'est pas un magicien et nous ne pouvons pas avoir à son égard, à son encontre, faut-il dire, de tels comportements réclamant de lui qu'il soit un grand mage ou qu'il soit le bureau des plaintes. Bon, ça encore passe encore. Le bureau des plaintes, si c'est se plaindre, pourquoi pas. Si c'est faire des manifs, réclamer toujours plus, alors c'est infamant. Petit schéma, donc, pour récapituler tout ça. Les trois tentations sont elles-mêmes des récupérations des têtes de chapitre. Ben c'est pas moi, là, pour le coup, c'est un grand, grand classique. Hein. Il y a avoir, pouvoir et être, avec les trois tentations que vous repérez. En effet, ça porte sur l'avoir, c'est-à-dire le consumérisme, ce désir de posséder, traduit par le pain ici. Bon, c'est le pouvoir, bon, là, ça va être traduit par Satan, carrément, le pouvoir satanique. Et l'être, en effet, parce qu'on demande au Christ de faire ce qu'il n'est pas, ouais, de faire le magicien, de faire le faiseur de grandes choses. Et les antidotes de ça sont bien connus. Hein. Le jeûne, qu'on pourrait appeler aussi la frugalité, la sobriété, la vie simple, nous n'avons pas besoin d'avoir tout ça. On n'a pas besoin d'être gavé, ça nous rend malade. L'aumône, qui est une attention à autrui, et non pas... c'est l'inverse de la domination, hein, c'est pour ça que c'est l'antidote, parce que c'est se laisser toucher par autrui, au lieu de l'écraser. La pitié, plus que la supériorité, c'est le soin, l'attention, la bienveillance, le partage, bon, etc. Et contre la mentalité magique de Dieu, en fait, à nos ordres et à notre disposition, eh bien, la prière, qui, elle, est faite de louanges et de gratitude. Donc, voilà pour les tentations du Christ. Elles sont quand même bien connues. Maintenant, le quatrième point, le salut de la matière. Qu'est-ce que j'entends par là? Je voudrais finir ce parcours du salut en y incluant le cosmos, la matière. C'est presque anecdotique, mais il y a des traces de cela dans les textes que nous venons de voir, le baptême du Christ et les tentations au désert, et aussi dans les hymnes christologiques qu'on a vus. Je reviendrai en fin de parcours sur ce thème important du salut du cosmos dans la pensée de l'Église. Le premier point de détail, c'est dans l'évangile de Marc sur les tentations. C'est un texte presque sans importance, tellement il est bref. Vous savez, là, je vous ai lu Luc, Marc, Luc, Matthieu, ont des récits à peu près équivalents. Mais Marc, c'est invraisemblable. Je vous le lis. En un verset, il a réglé la question. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Il vient de recevoir le baptême. C'est le dernier mot du baptême. Donc, voici les tentations. Et il était dans le désert pendant 40 jours, tenté par Satan, point. Et il était avec les bêtes sauvages, point. Et les anges le servaient, point. C'est la seule image que j'ai trouvée qui illustre ça. La curiosité sur le point de détail sur lequel je tire votre attention, et les bêtes, il était avec les bêtes sauvages. C'est un détail très intéressant, vu la sobriété de l'écriture de Marc, hein, vous avez vu comment il traite les... Quand on lit l'évangile de Marc comme ça, en tournant les pages, on passe au-dessus des tentations sans même s'en rendre compte. Vu la sobriété de l'écriture de Marc, ce petit détail veut dire quelque chose, c'est évident. Mais quoi ? Bien, deux choses. Et elles nous viennent, en fait, ce sont des citations, des allusions à deux sources, le livre de Daniel et chapitre 1 de la Genèse. Une seule figure de l'Ancien Testament vit comme ça, avec les bêtes sauvages. C'est Daniel. Il survit aux bêtes sauvages, devrait-on dire. C'est le jeune Daniel, qui est un Hébreu exilé et employé à la cour du roi de Babylone, appelé tantôt Balthazar, tantôt Darius. Comme il ne veut pas participer au culte du roi, on le jette dans une fosse aux lions. Mais il apaise les lions qui ne le touchent pas. Quand le roi Darius voit ça, il délivre Daniel, bien sûr, pour lequel il a d'ailleurs toujours eu une secrète estime, et il se met à chanter à son tour la louange du Dieu de Daniel. Ça, c'est dans le livre de Daniel, au chapitre 6. Et c'est le même Daniel, donc c'est ça, hein, l'allusion. Mais il y a une double allusion, vous allez voir laquelle, parce que c'est le même Daniel au chapitre suivant, chapitre 7, qui a une vision apocalyptique où il voit quatre animaux abominables et destructeurs qui vont déchiqueter le monde et qui sont vaincus par une étrange figure appelée pour la première fois dans l'Écriture et qui aura beaucoup de succès, le Fils de l'homme, avec des majuscules si vous voulez. Or, ce titre, le Fils de l'homme, est le seul que Jésus accepte pour lui-même et qu'il s'attribue à lui-même plus de 70 fois, et non pas Messie, et certainement pas roi. Et donc, vous voyez, là, il y a une allusion chez Marc quand il donne ce petit détail. Il y a une allusion très intéressante sur le fait que Jésus, comme fils d'homme, est celui qui va vaincre ces quatre animaux bestiaux qui va vaincre toute bestialité, qui va vaincre les puissances du mal. Et en particulier nos trois tentations qui sont broutilles par rapport à ces grands fléaux. La deuxième allusion pour comprendre il vivait avec les bêtes nous vient de Genèse. Bon, ça c'est plus facile à comprendre, hein. C'est le temps du paradis. Au livre de la Genèse, quand tout était en paix, que les animaux et les hommes se côtoyaient librement, sans aucune animosité ni aucune prédation. Situation que le prophète Isaïe reprendra pour décrire les temps futurs, les temps où Dieu sera tout en tous. Alors c'est un texte magnifique hein, dans Isaïe chapitre 11 que je vous relis. Loup vivra avec l'agneau, la panthère reposera aux côtés du chevreau, le veau et le lionçon et le bœuf à l'engrais seront ensemble et un petit enfant les conduira. Les vaches et les ours brouteront côte à côte et leurs petits auront le même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille. Le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. On ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique ce texte et c'est bien cette paix qu'établira la connaissance de Dieu, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme les eaux recouvrent le fond de la mer. C'est ça le salut du cosmos. Et la connaissance de l'Éternel fera venir la paix. Eh bien, quand Marc fait cette brève allusion, il fait cette allusion à tout ça. On retrouve, petite curiosité, hein, oh, j'aurais dû vous passer ça, tiens, pendant que je lisais le texte d'Isaïe. Voilà, je suis en retard sur mes photos. Le lion gîtera avec l'agneau, etc., etc. Un petit garçon les conduira. Bon, bref. On trouve, par exemple, chez Tertullien, cette idée de participation des bêtes au cosmos et à la connaissance de l'Éternel. Il dit ceci, c'est très anecdotique, hein, mais je vous le dis pour s'amuser un peu. En 221, en 220, après Jésus-Christ, bien sûr, il est persuadé, et il milite pour ça, pour dire que les animaux chantent par nature, par tout ce qu'ils sont, la gloire du Très-Haut. Alors, voilà ce qu'il dit. Toutes les créatures prient, les bêtes domestiques et les bêtes sauvages fléchissent les genoux. Et lorsqu'elles sortent de leur étable ou de leur repaire, elles regardent vers le ciel, non sans motif, en faisant frémir leur souffle, chacune à sa manière. Quant aux oiseaux, lorsqu'ils s'élèvent, ils se dirigent vers le ciel et ils tendent leurs ailes comme nous étendons les mains en forme de croix. Et ils font entendre ce qui paraît comme une prière. Donc voilà, vous voyez, il y a toujours eu dans la tradition de l'Église l'espérance d'une participation cosmique à la louange. Donc voilà, c'est probablement la signification de il vivait avec les bêtes et les anges le servaient. Alors, on va finir avec ça. Un second détail, celui-ci, ce détail, est une interprétation parfaitement admise dans l'Église d'Orient et pourtant inconnue chez nous. Il y a une phrase dans l'Évangile de Matthieu qui est bien étrange. Je vous relis le texte de Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 17. C'est le baptême, hein? Mais je vais vous signaler la phrase bien étrange. Alors, paraît Jésus, il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher. Voilà, ça, vous voyez, c'est propre à Matthieu. Jean voulait l'en empêcher. C'est normal, hein, vu tout ce que je vous ai dit. Il n'a pas besoin d'être baptisé. Ce n'est pas vraiment un baptême. Jean voulait l'en empêcher et disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répondit, voilà la chose extraordinaire, voilà le détail. Laisse faire pour le moment. Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit Saint descendre comme une colombe venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Le reste est classique. Et donc, vous avez quand même cette spécificité très étrange. Laisse faire. Lors du baptême du Christ, j'ai dit que le Christ n'avait pas besoin d'être purifié, pas besoin d'être converti non plus. Jean ne s'y trompe pas. Alors, Jésus lui dit, laisse faire. Et le texte confirme, et il le laisse à faire. C'est donc Jésus qui est acteur. Pour l'Église d'Orient, c'est clair. Si Jésus vient au Jourdain, ce n'est pas pour être purifié, encore moins baptisé. C'est lui qui purifie les eaux. Et qu'il est béni, et qu'il est baptise. Il se lie au cosmos et à la matière de ce monde. Il s'y plonge et la sanctifie. D'où les deux petites silhouettes que vous voyez en bas de cette icône. C'est une très belle tradition byzantine que nous voyons sous deux formes, dans les icônes, ici, je vais vous en montrer, et dans les bains de l'Épiphanie. Je vais vous montrer ça après. Et donc, voici une fresque du XIVe siècle. Vous avez deux petites figures bizarres dans le Jourdain. L'une figure Monsieur Jourdain et l'autre figure Monsieur Cosmos. Et c'est très nettement un geste de bénédiction que Jésus tend vers Cosmos. Et donc, vous voyez, c'est comme ça que l'Orient comprend. Pourquoi les orientaux, les byzantins, les orthodoxes, les russes, les ukrainiens, si vous leur posez la question pourquoi Jésus est venu au baptême de Jean, ils vous diront tous pour bénir les eaux. Ouais, c'est une interprétation très intéressante. L'Occident, figurez-vous, ne l'ignore pas, mais l'a oublié dans sa tradition. Voici un manuscrit de l'an 1000 en Allemagne. Et regardez, en bas, vous avez Monsieur Cosmos avec sa corne d'abondance. Et même les poissons, les petits poissons, vous voyez, qui font la fête à Jésus. Donc, on est vraiment, nous, en Occident, on est parfaitement au fait de cette tradition. Mais on l'a oublié. Je vous montre une icône contemporaine qui nous sort un peu des copier-coller habituels. Vous savez, en matière d'iconographie byzantine, on n'invente pas beaucoup. Mais alors voici une jeune femme, iconographe ukrainienne, tiens, ouais, décidément, hein, c'est très d'actualité. Il y a deux iconographes actuellement en Ukraine, un à Kiev, alors je ne sais pas ce qu'il est devenu, et l'autre de laïc, hein, un homme à Kiev, et une femme à Lviv. Et qui font depuis les années 80 des icônes franchement contemporaines tout en empruntant à la tradition byzantine. Donc ici on reconnaît très facilement le baptême, hein, et elle insiste sur la transfiguration et le bouleversement cosmique et presque le soulèvement de joie du cosmos. Voilà, c'est une très belle manière de voir. Ouais, ça c'est très byzantin. Le dernier point que... Ah oui, non, ça, je vous le montre, l'autre, Arsène Bezerra, lui, il est de Kiev, alors bon, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Lui, sa spécificité, c'est qu'il peint sur des matériaux tout à fait étranges, des vieilles plaques de métaux, des caisses de munitions, des anciennes affiches collées sur des affiches, vous savez, qui font des épaisseurs. Hop, il peint une icône là-dessus. C'est pas mal du tout. Donc voilà, un petit salut à l'Ukraine au passage. Alors maintenant, le dernier point pour finir. Ah ben, qu'est-ce qui se passe? Le dernier point pour finir avec... Ah ben, alors attendez, il faut que j'aille chercher. Ça, c'est bizarre. un autre document. Ne me quittez pas, hein, j'arrive. Ah, comme c'est bizarre. Voilà. J'ouvre un autre PowerPoint parce que... Voilà. Il me semble que j'ai perdu mon document. Hop. Ah, j'espère que je ne l'ai pas effacé. Hein. Oh. J'ouvre un autre. Voilà. Hop, je vais tout de suite au bout. Ah, ça y est, je l'ai retrouvé. Alors, je vous partage l'écran. Hop. Hop. J'arrive, j'arrive. Hein. Voilà. La première fois que ça m'arrive, ça, cette bizarrerie. Voilà. C'est bon, vous avez à nouveau l'image? Voilà. Voilà. Donc, on en était resté là. Alors, voilà. Les bains de l'épiphanie, qu'est-ce que c'est? C'est un rapport évidemment avec le baptême du Christ, avec l'interprétation byzantine que je viens de vous en faire. Les bains de l'épiphanie, c'est une tradition qu'on voit dans tous les pays slaves principalement, mais orthodoxes. Alors évidemment, ça se passe aussi en Turquie avec la petite communauté d'orthodoxes, mais là, on est en Russie. 10 jours après Noël, c'est la fête de l'Épiphanie, et en Russie, il fait froid. Eh bien, les Russes se plongent dans l'eau pour s'y sanctifier, pour participer à cette sanctification cosmique qui a commencé lors du baptême du Christ et qui a commencé par les eaux. Et donc, partout dans le monde, les orthodoxes, ce jour-là, bénissent les eaux, ou plus exactement, commémorent la sanctification des eaux. Mais en Russie, c'est un bain rituel et coutumier auquel on procède et qui est dorénavant de plus en plus à la mode. Alors, le jour de l'Épiphanie, il y a une célébration, force prière, force patriarche ou prêtre. On scie dans le lac une trappe, une ouverture. Le patriarche bénit, trempe un crucifix dans l'eau. Et après, les gens vont s'y tremper. Et ça dure toute la journée, toute la nuit et encore le lendemain. Alors évidemment, c'est un véritable défi, hein, surtout en Russie, parce qu'en Turquie, ça va, le jour de l'Épiphanie, il fait encore 8 à 10 degrés, mais en Turquie, il fait moins 10, moins 20. Et donc, on taille dans la glace une ouverture appelée d'ailleurs Jourdain. Donc, vous voyez, l'allusion est on ne peut plus claire. Et en prononçant des prières avec force bénédiction, on va se plonger dans cette eau glacée. Alors c'est évidemment, vous imaginez, une vraie régénérescence, hein, à n'en pas douter. Ceux qui n'en meurent pas en sortent ragaillardis, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc il faut évidemment, pour pratiquer ce genre de choses, croire que Jésus est sauveur. Voilà, c'est avec cette dernière image, un peu étrange, c'est le moins qu'on puisse dire, que je finis ce cours. Alors, on peut partager maintenant nos questions, si vous voulez bien, et si vous avez des questions. Alors, hop, je me remets ma petite image. Alors, allez-y, vous pouvez... Si vous avez des questions, alors attendez, où suis-je passé moi? Voilà. Voilà.
Est-ce que vous pouvez donner les références des trois hymnes?
Vous les avez sur la feuille.
D'accord, je n'avais pas j'ai pas pu éditer pour ça.
Voilà, vous les avez même dans la traduction que j'ai utilisée.
D'accord.
La traduction, c'est la traduction de AELF,
D'accord.
l'édition en langue française, l'édition liturgique de langue française.
OK.
n'est pas la meilleure traduction, comme vous avez pu le voir dans mon commentaire, hein. Mais c'est celle qu'on entend tous les dimanches.
Merci.
Voilà. Bon, j'espère que je ne vous ai pas assommé. On se retrouve la prochaine fois pour une explication du Notre Père, un peu développée, bien sûr. Vous allez voir, on découvrira encore des choses. Il y en a toujours à découvrir sur le Notre Père, mais enfin, voilà. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va aller boire une bière.
C'est une bonne idée.
Bon, alors, bonne...
Pardon, excusez-moi.
Ah, allez-y.
Bonsoir.
Oui.
Oui, pardon. Je suis un tout petit peu perdue dans le plan de votre cours et j'ai commencé la séance un petit peu en retard. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me rappeler rapidement dans quel cheminement se cale cette séance aujourd'hui ?
Alors, attendez, j'ai peut-être encore mon PowerPoint ouvert. Je cherche. Parce que, évidemment, j'ai mis le plan tout... Oui, il est ouvert. Alors, voilà. Oup là, ça défile vite. Hein, tout le temps qu'on... Voilà. Vous voyez ?
Le sacrifice de la croix, et donc il est sauveur, d'accord.
Voilà, c'est le chapitre 6. Le sacrifice de la croix, on avait pris deux séances. Les querelles christologiques, deux séances. Et une séance aujourd'hui sur le sauveur, avec ce plan-là. Hymne christologique, tentation du Christ, salut de la matière.
Merci beaucoup.
Alors, il sera disponible, hein, je vais le PowerPoint en entier, comme d'habitude, sera disponible sur le site dès ce soir, je pense. Enfin, moi, je l'envoie dès ce soir.
J'ai une petite question. Bonsoir, Bernard. C'est par rapport au... Enfin, le texte du livre de Daniel avec les quatre bêtes destructrices, là.
Oui.
Parce que là, vous l'avez évoqué comme le fils de l'homme qui vient sauver.
Oui.
La question que je me suis posée, enfin, j'ai beaucoup de mal à interpréter et à comprendre la symbolique de ces bêtes. Il y a quelque chose qui perturbe énormément.
Ah oui, non, alors faut pas trop s'esquinter les ménages. On est dans l'imaginaire babylonien. Ça raconte l'histoire de l'exil, enfin de l'exil, de l'emprisonnement. En fait, c'est une image de l'exil, bien sûr. Hein. C'est Daniel, un jeune hébreu, qui est déporté à la cour du roi de Babylone. Et donc, c'est la mythologie babylonienne, en gros, qui est moquée. Donc, avec trois bêtes abominables qui sont des figurations, des fléaux, tout simplement. Hein. Vous savez que nous aussi, dans notre iconographie, on a des trucs bizarres qui figurent les grands fléaux de l'humanité, la peste, la guerre... enfin, l'épidémie, la guerre, la famine, et il m'en manque un, enfin, je ne sais plus. Nous, ce sont les flèches qui sont dans le corps de Saint-Sébastien, qui figurent les fléaux qui ont toujours ravagé notre humanité. Et donc, c'est ça, les quatre bêtes chez Daniel n'ont pas d'autre signification que ça. À la différence des bêtes de l'Apocalypse, qui signifient très clairement les empereurs romains. Donc voilà, donc faut pas trop chercher dans le livre de Daniel, c'est juste les choses qui ruinent notre humanité. Et le Fils de l'homme va en être vainqueur. C'est donc la première fois dans l'Ancien Testament qu'on a l'idée que les grands fléaux seront vaincus par le Messie, qu'on appelle pour la première fois le Fils d'homme. Que le Christ, donc, je vous le rappelais, le Christ va accepter ce titre. Bon, voilà, c'est pour ça que je citais ça. C'est bon ?
Oui, super, merci.
Oui, bonsoir mon père, Jean-François Chintrouvou.
Oui.
Je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui.
Vous avez fait allusion aux quatre cavaliers de l'Apocalypse, la famine, l'épidémie, la guerre, et dans ce que j'avais appris, le quatrième cavalier, c'est la mort. Je n'ai jamais très bien compris d'ailleurs pourquoi la mort a une place particulière, puisque effectivement, les trois premiers, c'est aussi la mort. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Ouais, est-ce que vous avez une interprétation sur ce point?
Non, pas par rapport aux fléaux dont je parlais, qui sont plantés dans le corps de Saint-Sébastien.
Oui, je comprends.
Oui, les quatre fléaux, les quatre chevaux de l'Apocalypse.
Exactement.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très curieux. Le cheval blanc et
le
la
cheval
mort.
Blanc, oui.
La mort est derrière lui.
Oui, c'est ça.
C'est très étrange comme explication. Ouais. Oui, mais je ne sais pas.
Bon, bah écoutez, on va continuer à chercher.
Enfoui.
Merci. Merci en tout cas pour tout. Hein.
Je vous en prie.
Est-ce que vous... Je vais mal formuler ma question, mais si je me souviens bien, après les baptêmes, le Christ va dans le désert, il va être tenté par les tentateurs.
Oui.
C'est la première action, c'est pas d'aller sauver les...
En effet, oui.
Enseigner, mais c'est d'être tenté.
Oui, c'est ça.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que...
Il annonce le programme.
Comment il faut l'interpréter?
Il annonce le programme, en fait. C'est la préface. C'est la préface du bouquin. Et donc, en gros, il dit, voilà pourquoi je suis là. Pour que vous soyez vainqueurs du mal. En gros, courage, c'est ce qu'il dit à la fin de l'évangile de Matthieu, courage, j'ai vaincu le monde. C'est étonnant. Étonnant comme histoire, cette expression de Matthieu. Courage, j'ai vaincu le monde. Pourtant, les guerres ont continué, les fléaux ont continué. Mais voilà, c'est l'espérance chrétienne. Et donc, il l'annonce d'emblée. C'est pour ça.
Donc ça veut dire que les combats spirituels, c'est la première de...
Oui, oui.
Pour ouais, nous, ça veut... pour nous, le pauvre...
Ouais, c'est ça. Spirituel, ouais. Comportementaux, c'est la grande ruine de notre humanité. C'est, c'est ça, c'est la boulimie, c'est les faux cultes. Enfin voilà, et c'est la ruine de notre humanité. Et c'est ça qui entraîne les autres fléaux.
Merci.
S'il vous plaît,
oui.
C'est Anne qui parle. Ce qui m'étonne aussi, c'est qu'il soit dit qu'il est mené au désert par l'Esprit.
Oui, par l'Esprit Saint, oui.
L'Esprit Saint, que ce soit lui qui le conduise là-bas, c'est aussi quelque chose que je trouve très étrange.
Oui. Oui, oui. Alors... Moi, je crois qu'il faut le comprendre à partir du moment du baptême.
On ne vous comprend pas.
L'Esprit Saint le conduit tout court. Comment il commence par le désert, mais il continuera à le conduire. Moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est-à-dire, il ne le conduit pas uniquement au moment des tentations, mais il vient d'être baptisé, c'est-à-dire d'être intronisé, on peut dire, hein, parce qu'il a toujours été fils de Dieu. Mais là, c'est le départ en mission. Et du coup, l'Esprit le conduit. Et ça commence par les tentations. Et c'est la seule fois où on nous dit que l'Esprit le conduit. Oui. Mais après, l'Esprit le conduit à choisir Matthieu, l'Esprit le conduit, etc. Enfin, moi, j'interprète ça comme ça.
D'accord.
Pas sûr.
Merci. Merci.
Je vous en prie. Bon, allez, on se quitte et on se retrouve pour la dernière fois, comme c'est triste. Je ne sais pas comment on va faire pour se consoler. Hein. Oui. Ah ben, remarquez, vous pouvez toujours venir samedi. Et puis, vous pouvez également suivre les conférences de Carême que je donne sur la chaîne YouTube des Églises de Boulogne. Le mardi soir, une demi-heure, tous les mardis soirs, sur la sobriété.
À quelle heure ?
21h. Voilà. Allez, bonne semaine.
Merci, bonne semaine.
Merci, père, merci.
Bonsoir, merci beaucoup.
Merci, mon père.
Merci, au revoir.
Au revoir.